Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
François Bernard.
Dimanche politique sur Radio France Internationale. En ligne avec nous ce soir, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes président de MCBG, conseil, vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po et vous êtes l'auteur d'une BD récente intitulée « Le Président ». C'est aux éditions Les Arènes. L'actualité du jour politiquement se décline en deux thèmes autour du président Macron. Le premier concerne le référendum en France sur le climat. Le second, c'est le coup d'envoi au Parlement de Strasbourg de la conférence sur l'avenir de l'Europe, vaste consultation citoyenne. Commençons par le référendum sur le climat. Le journal du dimanche en fait la une ce matin avec ce titre « Macron enterre le référendum ». L'Élysée dément avoir renoncé à l'organisation de ce référendum sur le climat et la biodiversité. Et pourtant, on sait que sa tenue est jugée compromise, dit-on. Alors, est-ce qu'on peut commencer, Philippe Moreau-Chevrolet, par décrypter cette confusion sur ce dossier qui pourtant semblait tenir à cœur au président ?
Oui, la confusion tient au fait que depuis le début, il y a un doute sur la capacité de faire un référendum, de faire passer un référendum, sachant qu'il faut a priori un vote des deux tiers du Sénat et de l'Assemblée nationale, hein, réunis en congrès. Il faut des procédures extraordinaires pour obtenir la mise d'un référendum au vote. Et donc ce serait vraiment très difficile dans le contexte actuel, surtout vu les délais qui restent. Donc la décision ou la non-décision, alors du coup on ne sait pas bien, de l'Élysée paraissait assez logique, hein, voilà. Maintenant, l'agenda électoral veut qu'on ne contrarie pas trop l'aile gauche de La République En Marche, et en particulier les écologistes, sachant que beaucoup d'électeurs de La République En Marche, lors des derniers scrutins, sont allés vers les écologistes.
Alors, réaction des écologistes, justement. C'est la faute d'Emmanuel Macron, qui a fait, comme d'habitude, une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. L'accusation a été formulée sur France Info ce matin par le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, écoutez.
Nous avons besoin d'inscrire dans la Constitution le respect du climat, la garantie de la préservation de la biodiversité. Mais nous savions qu'Emmanuel Macron nous faisait, comme d'habitude, une promesse qu'il ne pouvait pas ou qu'il ne voulait pas tenir. Et ça a malheureusement trompé son monde, et notamment les médias, beaucoup de médias.
C'était une manœuvre politique ?
Absolument, bien sûr.
Julien Bayou. Alors, comme d'habitude, une promesse qu'il ne peut pas tenir, dit-il. D'une manière plus générale, c'est un jugement sévère ou le constat d'une réalité ? Les actes présidentiels ne seraient pas toujours à la hauteur de leurs intentions ?
Alors oui, il y a beaucoup en France, d'une manière générale, hein, c'est pas propre à Emmanuel Macron, il y a beaucoup de verbes en matière d'écologie, très peu d'actes, très peu de réalisations. On a tendance à nommer un ministre de l'Environnement un petit peu au hasard, soit parce qu'il a une forte notoriété médiatique, on se souvient que Nicolas Hulot est parti en claquant la porte, hein, soit parce que il appartient à tendance dont on a besoin politiquement, mais on prend rarement un ministre de l'Environnement pour qu'il fasse son travail de ministre de l'Environnement. Donc en général, ça aboutit à une grande déception de la part des écologistes. Et puis c'est le cas dans tous les gouvernements. Hein. Je veux dire, depuis une vingtaine d'années où on a vu que ce thème s'imposait et où finalement on a nommé des ministres de l'Environnement, aucun n'a donné satisfaction et aucun n'a paru avoir ne serait-ce que la possibilité d'obtenir des résultats. Puis ce gouvernement en particulier, on s'en souvient parce que c'est plus récent, a effectivement renoncé sur beaucoup de dossiers symboliques, hein, le glyphosate en est un bon exemple. Donc c'est vrai que c'est impossible à la fois de contenter les industriels, les agriculteurs au fond, l'économie et le pôle écologiste. En France, en tout cas, on n'a pas trouvé la martingale pour concilier les deux.
Dossier à suivre, en tout cas, il n'est pas clos. Emmanuel Macron a été très actif à Porto vendredi, samedi, avec ses homologues européens, à Strasbourg aujourd'hui, avec le projet de faire avancer l'Europe sociale. Est-ce que la dimension européenne du président français fait partie, Philippe Moreau-Chevrolet, de sa stratégie politique à l'échelle nationale ?
Le problème pour lui, c'est qu'au fond, l'Europe est très contestée en ce moment à cause de la mauvaise gestion du Covid, évidemment. C'est un exemple qui, du coup, ça frappe beaucoup les esprits. Et le problème, c'est que c'est dans l'identité même politique d'Emmanuel Macron, l'Europe. La grande promesse du candidat Macron en 2017, c'était que la France allait rentrer dans la mondialisation, s'insérer dans la mondialisation, dans le camp des gagnants, entre guillemets, grâce à l'Europe, avec le poids de l'Europe. Évidemment, 3 ans après, 4 ans après, avec cette, cette crise du Covid qui a mis à rude épreuve les alliances européennes avec le Brexit, avec le fait que l'Angleterre, qui est partie de l'Europe, a l'air de gérer mieux le Covid que nous, finalement, avec le fait que les Européens, entre eux, n'ont pas l'air d'accord, notamment sur la question des brevets vaccinaux. Bien, ça crée un doute et du coup, ça affaiblit sa position. Mais c'est sa seule colonne vertébrale idéologique, Emmanuel Macron. Il a l'Europe et finalement pas grand-chose d'autre. Comme tous les mouvements centristes européens, en général, ce qui donne l'identité à ces mouvements centristes, c'est l'Europe.
Il a aussi des préoccupations nationales, puisque les élections régionales approchent. Les alliances locales peuvent mettre à mal, on l'a vu, les appareils politiques. Trois membres éminents cette semaine du parti, les Républicains, ont été tentés de s'engager auprès du président Macron, de La République En Marche en tout cas. Renaud Muselier à Marseille, Hubert Falco à Toulon, Christian Estrosi à Nice. Les dissensions au sein du parti Les Républicains inquiète le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Écoutez.
Ce que je vous dis, c'est que le parti Les Républicains est en train de devenir un parti satellite du Rassemblement National. C'est cette dérive-là à laquelle on est en train d'assister, que c'est préoccupant.
Est-ce que Les Républicains sont dans une phase critique face à un véritable risque de scission au sein du parti, selon vous ?
Alors, non, parce que d'abord, il faut comprendre que politiquement, électoralement, pour les régionales, le parti Les Républicains par rapport à LREM, c'est un géant face à un nain. C'est-à-dire qu'on sait que Les Républicains vont avoir énormément d'élus, gagner des régions. La République En Marche, là pour l'instant, on a du mal à voir ne serait-ce qu'une seule région qui pourrait basculer vers La République En Marche. Sans alliance, ça paraît difficile. Mais ce qui est de très affûté et de très intelligent, c'est toujours cette politique de débauchage individuel qui est préparée de longue date, puisque ça fait longtemps qu'Estrosi est proche du gouvernement, cultive son lien avec le gouvernement notamment. Cette stratégie de débauchage individuel peut laisser supposer qu'il y a une fragilité, peut laisser supposer finalement que David pourrait terrasser Goliath. Mmh. Donc c'est intéressant de voir toujours La République En Marche très forte sur le terrain du marketing et du ce qu'on appelle le storytelling, l'art de raconter des histoires.
En tout cas, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ce matin, a pris le parti du dissident Estrosi. Est-ce que Raffarin, c'est une voix qui compte encore ? Est-ce que son avis est partagé ? Est-ce que l'alliance avec La République En Marche est plausible, possible ?
Alors, tout est possible. Raffarin en particulier, cette génération, on va dire, d'élus républicains, un petit peu comme Sarkozy, évidemment tenter de conclure la paix avec Emmanuel Macron. Je pense que pour la droite, il y a un problème, c'est qu'une partie des cadres vont voir s'il y a une possibilité pour un président de droite d'être élu. Et tant qu'ils ne croiront pas à 100% que c'est possible, ils ménageront la chèvre et le chou, tout simplement pour ne pas se retrouver sur le carreau si Macron est réélu. Donc on assiste au fond à des gens qui émettent à ciel ouvert, en quelque sorte, c'est ça qui est nouveau dans la période actuelle, ils émettent à ciel ouvert leurs doutes et quelque part leurs orientations de carrière. Donc c'est assez étonnant, ce grand déballage d'ambition et de crainte et de peur, finalement. Mmh.
Parallèlement, et dans la perspective toujours des élections régionales puis présidentielles, la question de l'union de la gauche se pose avec acuité. Écoutez ce qu'en a dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure sur BFM.
Eh bien, les gens à qui nous avons tendu la main, nous avons fait l'effort de dire « Ok, c'est vous qui avez toutes les têtes de liste, parce que vous ne supportez personne d'autre que vous. » C'est le cas d'Europe Écologie Les Verts. Et eux, la conclusion, c'est ils éliminent les insoumis des départementales et des régionales. Vous m'avez regardé, vous croyez que je suis homme à qui on fait ce genre de traitement et qui ensuite va dans son coin le mouchoir à la main pour pleurer. Non, j'en ai tiré la leçon. Ce sont des menteurs, des hypocrites et des fauchetons.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. L'union de toutes les forces de gauche, Philippe Moreau-Chevrollet, semble compromise. Est-ce qu'elle est possible tout de même ?
Alors, elle est peut-être possible autour d'un candidat écologiste. C'est en tout cas ce que laissent penser les élites du Parti Socialiste, je veux dire celles qui sont à la manœuvre aujourd'hui. Les nouvelles générations sont plutôt tentées de passer leur tour et de permettre à un candidat écologiste socialiste de s'imposer. Jean-Luc Mélenchon, il a envie de faire un nouveau match, il a envie de remonter sur scène, évidemment ça ne l'arrangerait pas du tout, et il fait tout pour le torpiller. Au fond, on a une attitude assez symétrique de la part d'Emmanuel Macron à droite et de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Ils essayent de pousser au maximum leurs chances et de faire le ménage pour voilà, pour qu'il y ait le moins de concurrence possible, c'est compréhensible, c'est toujours le cas dans toutes les présidentielles.
C'est aussi d'actualité le sentiment d'insécurité répété en écho dans les médias avec des événements violents, bien sûr, ces derniers jours qui ont touché l'opinion, la mort en opération d'un policier à Avignon lors d'un contrôle, des violences urbaines la nuit dernière à Fréjus. Marine Le Pen s'en prend au laxisme d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Elle était au micro d'Anne Souhaitemont.
Nous avons tous le sentiment que l'autorité de l'État est à un niveau de délitement jamais probablement atteint. Il faut que le prochain président de la République incarne cette autorité et je serai la présidente qui incarne le retour et la restauration de l'autorité de l'État face à un président qui n'a eu de cesse que de se complaire dans une forme de laxisme, de désordre.
Est-ce qu'il y a une crise de l'autorité gouvernementale en France, selon vous ?
Alors non, il n'y a pas de crise de l'autorité gouvernementale en France, sinon le gouvernement n'arriverait pas à imposer des mesures comme un confinement qui suppose quand même la bonne volonté des gens. Le couvre-feu qui globalement, même si évidemment on insiste sur ce qui ne va pas, est respecté. On voit bien que l'État se tient. Après, ce qui est vrai, c'est que au fond il y a un doute sur la capacité du gouvernement actuel à maintenir l'ordre. Parce qu'il y a eu l'épisode des Gilets jaunes qui a laissé des marques assez profondes, hein, où on a vu des ministères se faire attaquer à la voiture bélier, hein, concrètement, ce qui n'était jamais arrivé quasiment sous la cinquième, à part à de très rares exceptions, hein, en période de guerre ou quasi insurrectionnelle. Mais évidemment des moments qui ont laissé des traces. Et puis bon, il y a ce doute, au fond, de se dire de la part de l'opinion, est-ce que ce gouvernement, qui s'est présenté au début comme un gouvernement plus ou moins de gauche, en tout cas émanant de la Hollandie, est-ce que ce gouvernement sait être assez à droite, sait être assez régalien? Est-ce que ce président ne joue pas plus au président qu'il occupe réellement la fonction, vous voyez?
L'avenir nous le dira.
Voilà, merci. C'est ça la question fondamentale.
Philippe Moreau-Chevrolet, merci d'avoir participé à Dimanche Politique aujourd'hui.